إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، cet audio pour aborder la possession, un des mots occultes qui existe, le troisième. Ce mal occulte, malheureusement répandu, alhamdoulillah, pas autant qu'on le croit. On entend beaucoup d'histoires, mais alhamdoulillah, c'est répandu, mais pas de façon aussi importante. Donc cet onglet sur la possession, dans le même esprit, mettre à disposition de la connaissance qui touche au domaine de l'occulte, pour pouvoir aiguiller, orienter des personnes qui sont touchées et qui veulent en savoir plus. Une petite introduction avant de parler du sujet à proprement parler. Ce domaine-là ou ce mal occulte-là, on en parle beaucoup ces dernières années, depuis 2 ans ou 3 ans à peu près, il me semble. On a certains prêcheurs qui sont contre, qui disent ouvertement que la possession n'existe pas en islam et qu'elle n'est pas reconnue, que les personnes qui sont touchées et qui disent être touchées, ils sont en fait touchés par la psychiatrie, ou alors ils ont des problèmes psychologiques. Ça fait partie des arguments qui reviennent. Et malheureusement, ça se répand. Ça se répand et ça touche du monde. C'est des frères qui sont prêcheurs, qui sont imams, qui diffusent leur conférence sur YouTube ou alors à la radio. Ils participent à des émissions avec des questions-réponses. Et à cette occasion-là, ils donnent leur avis sur ce sujet pour dire que ça n'existe pas et qu'il faut arrêter de s'emballer et que c'est n'importe quoi. Donc c'est leur point de vue. Pour être honnête, en temps normal, j'aurais pas du tout pris la peine de parler d'eux. Je les aurais pas écoutés et j'aurais pas du tout accordé de l'importance à ce qu'ils disent. Parce que y a une légitimité à avoir, que ce soit dans les sciences islamiques ou dans le domaine de l'occulte. Il y a des degrés de connaissance, il y a des degrés de compréhension, et on ne peut pas prendre la parole de tout le monde au même niveau. On ne peut pas la mettre au même niveau. Si on fait une analogie avec la médecine, un médecin, il n'est pas au même niveau que l'infirmier ou l'assistant infirmier ou le balayeur de l'hôpital. Ils ont des niveaux différents et des statuts différents qui leur donnent accès à des métiers qui sont différents, qui sont à hauteur de leurs connaissances. Donc dans ces domaines-là, on est obligé de passer par des références qui sont beaucoup plus hautes. C'est quelque chose qui touche au domaine des savants. Des savants dans l'islam, j'entends. Et ces frères-là, ils font pas partie des savants. Et ils font des interprétations personnelles pour servir des causes cachées. On a des guerres de chapelle, en fait, on a des guerres de croyances. Et il faut savoir que un des plus grands défenseurs, entre guillemets, un des grands savants qui a beaucoup parlé de ce sujet-là, du domaine de l'occulte, c'est un savant qui s'appelle Ibn Taymiyyah. Et il y a certaines personnes qui sont en guerre contre la croyance d'Ibn Taymiyyah. Et en fait, c'est une guerre sous faux drapeau. C'est pour lutter contre ses idées. On va nier quelque chose que lui, il a défendu. Et donc, ce savant Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a des positions claires et il a des explications de certains hadiths et il a des explications de certains versets qui expliquent la possession. Et donc, pour lutter contre, c'est une des raisons. C'est une des raisons. Après, il y en a d'autres. Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de garder à l'esprit que... On se fie dans le domaine médical, on se fie par exemple à un médecin et on ne se fie pas à un infirmier. Et ceux qui disent aujourd'hui, tout ce qu'on voit et qu'on entend beaucoup, c'est des frères qui sont sûrement sincères, mais qui n'ont pas les compétences pour pouvoir donner des tels avis. Donc ça à prendre en compte, je le précise vraiment parce qu'on a des frères et sœurs qui sont perturbés par ce qu'ils entendent. Et on a ils ont dans leur entourage des proches qui écoutent ces voix-là et qui leur en veulent après coup. Qui leur disent, va en psychiatrie, t'as rien, t'as pas de possession, c'est dans ta tête, t'as inventé ça, etc. Et c'est extrêmement violent à vivre. J'ai vu beaucoup de frères et sœurs qui sont très très touchés par ça, sont très affectés, parce que ils n'ont pas vraiment de soutien dans leur famille, et en plus, d'un côté, ils n'ont pas du tout de soutien, mais en plus, on les enfonce en fait, on les soutient pas, et on les enfonce. Parce qu'ils vivent leur épreuve seuls et ils ont pas de soutien et c'est très difficile pour eux. C'est-à-dire de se justifier d'un côté et d'avoir une attente au niveau du soutien. Donc à prendre en compte que les Soubichets, ils sont vraiment pas, ils sont insignifiants dans les sciences islamiques et dans le domaine de l'occulte. Donc on prend pas en compte ce qu'ils disent et pour trancher. À mon sens, les sources suffisent. Et on a des versets et des hadiths qui vont dans ce sens. Et surtout, on a la position de beaucoup, beaucoup, beaucoup de savants qui confirment l'existence de la possession. C'est-à-dire qu'ils vont lire les sources et ils vont tirer des avis juridiques qui sont en lien avec les sources. Et c'est eux la référence. Ce n'est pas des personnes qui sont sur YouTube aujourd'hui. C'est des grands savants qui ont, dans l'histoire, prouvé leur science, qui ont été reconnus pour leur science par tout le monde, par tous les imams, toutes les époques confondues, et qui, aujourd'hui encore, sont encore des références. Donc on ne change pas à notre époque. On ne peut pas changer de référence aussi facilement. On ne peut pas passer de grandes références reconnues, tout pays confondu, par toutes les époques confondues, à des propos de personnes qui ont moins de 40 ans aujourd'hui et qui disent être légitimes en passant sur YouTube. Donc dans les sources, c'est la base de notre croyance. Le Coran, Allah Azzawajal, il nous dit dans un verset: Alladhina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytan min al-mas. Ceux qui mangent l'intérêt, le riba, ils ne se lèveront que comme celui qui se lève après avoir été touché par le shaitan. Ça, c'est un des versets. Yatakhabbathuhu shaitanu min al-mas. Shaitan le touchait. À un moment, il y a le mas. Et le mas, c'est la possession. Donc, ce verset-là, certains vont l'expliquer différemment. J'ai vu une des vidéos. Il y en a trois ou quatre, il me semble. Ces prêcheurs-là, ils sont trois ou quatre. Et j'en ai vu un qui prend ce verset-là et qui l'explique à sa sauce, qui commence à donner une explication pour aller dans son sens, pour expliquer que la possession n'existe pas. Alors que ce même verset-là, il sert de référence à tous ceux qui ont dit que la possession, elle existe. Mais l'important, c'est qui le dit. Est-ce que c'est un infirmier? Est-ce que c'est un assistant infirmier? Est-ce que c'est un médecin spécialisé dans la chirurgie? Et là, on a des savants du texte, des savants musulmans, qui sont spécialisés dans l'explication du Coran, des mufassirines, c'est-à-dire des exégètes. Eux, ils expliquent ce verset en disant que ce verset, il prouve la possession. Si on a des spécialistes du Coran parmi les savants, reconnus, toute époque confondue, qui disent que ce verset éprouve, qui prouve la possession, l'existence de la possession. On ne peut pas avoir quelqu'un aujourd'hui qui, à notre époque, prenne un micro et poste une vidéo de lui sur YouTube en disant que ce verset il veut dire autre chose. C'est pas solide. La référence solide, c'est les grands noms, les grands spécialistes de l'islam qui ont été reconnus par toute la communauté, qui ont été reconnus à toute époque confondue. Donc ce verset-là, il est expliqué dans ce sens-là. Il est expliqué dans le sens de la possession. J'ai fait une recherche à mon niveau, j'ai trouvé à peu près 12 noms, 12 noms de grands savants qui confirment que ce verset, il signifie l'existence de la possession. Parmi ces savants, on a Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on a Al-Alusi, un exégète qui expliquait le Coran. On a Ibn Kathir, on a Al-Qurtubi, on a Ibn Taymiyyah, on a l'imam Ahmad, On a plein de grands noms comme cela qui confirment. Donc ça, c'est le verset. C'est une des sources qui est le plus souvent citée. On a ensuite un hadith d'une femme qui se dévoile et qui a demandé au prophète alayhi de faire des invocations pour qu'elle soit guérie. C'est-à-dire qu'elle faisait des sortes de crises. Et pendant ces crises-là, elle se dénudait en partie. Et donc, elle demande au prophète alayhi de faire une invocation. Le prophète sallam, il dit, je peux faire une invocation pour qu'Allah te guérisse. Mais si tu patientes avec cette maladie-là, si tu patientes avec cette maladie, tu pourras avoir le paradis. Donc l'un ou l'autre. C'est-à-dire tu peux avoir une guérison complète et devoir faire tes efforts sur d'autres bonnes actions pour avoir le paradis, ou patienter avec cette maladie-là, dans la croyance d'Allah, pour avoir le paradis. Et donc cette femme-là, elle a répondu au prophète, alayhi salatu salam, je veux patienter avec cette maladie, mais invoque Allah pour que je me dévoile plus, pour que je me dénude plus pendant ces crises-là. Ibn Hajar al-Asqalani, un savant du hadith, il dit que ce hadith-là, il est rapporté avec une version. Il y a différentes versions souvent dans les hadiths. Et il dit que ce hadith-là, il est rapporté avec une version qui dit je crains que le mauvais me dévoile. Akhshan al-khabith yujariduni. Je crains que le mauvais, le shaitan, me dévoile. Et donc ça, c'est une source que lui, il cite. Il dit que c'est une des variantes du hadith et c'est utilisé pour prouver l'existence toujours de la possession en islam. Ensuite, on a un autre hadith avec un jeune qui était avec sa mère et la mère vient voir le prophète, alayhi salatu salam. Elle explique les difficultés de son fils, le fait qu'il ait des réactions, des maladies. Et le prophète, alayhi salatu salam, il va appeler ce jeune, il va lui dire, assis-toi, tourne-toi, et il va lui faire une tape sur le dos en disant, Okhruj adou Allah, sors ennemi d'Allah. Sors ennemi d'Allah. Et donc ça, c'est un des hadiths qui est cité par les savants pour pouvoir appuyer la sorcellerie, pardon, appuyer l'existence de la possession. Et on a un autre hadith qui est rapporté par Muslim, où le prophète, alayhi il dit, quand vous bâillez, mettez votre main devant votre bouche, فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَدْخُلُ. Le shaitan rentre certainement. C'est-à-dire, quand vous bâillez, mettez votre main devant votre bouche, parce que le shaitan entre dans la personne. Ça, c'est un autre hadith. Donc ces sources-là, elles existent et il y en a d'autres. Et des livres qui prouvent l'existence de la possession, qui reviennent en détail, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a des anecdotes avec des pieux prédécesseurs, il y a des anecdotes avec l'imam Ahmad ibn Hanbal, il y en a une avec son fils, etc. Il y a beaucoup de sources qui prouvent ça. Mais parce que souvent on a des personnes, des frères et des sœurs qui me disent qu'est-ce que je peux leur dire aux gens qui sont contre? Je réponds toujours on s'en fiche. Il n'y a pas de débat à avoir avec eux. Nous on a les sources, on a des grands savants qui prouvent que la possession existe. On a des hadiths, on a des versets. On a des paroles de compagnons, des paroles de pieux prédécesseurs. Ça suffit. Ça suffit pour avoir une certitude dans le domaine. Et même eux, ceux qui sont contre, ils disent que c'est un cas isolé. C'est-à-dire ils reconnaissent à moitié que ce qu'ils disent, eux, c'est un cas isolé ou c'est un avis isolé. Mais ils oublient de le préciser. C'est-à-dire il faut insister pour qu'ils le reconnaissent. Donc il faut sortir de ces débats-là. Il faut sortir de ces échanges, il faut sortir des calomnies, il faut sortir de tout ce qu'on voit habituellement dans ce domaine, dans ces contradictions, etc. C'est inutile. C'est une grande perte de temps. Et souvent, ça finit par être des batailles d'ego. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une envie de trouver la vérité. Il y a une envie de briller et de dire c'est moi qui avais raison. L'essentiel, c'est que celui qui est touché, qui pense avoir quelque chose, qui pense être touché par la possession ou qui a un proche, sachez que les sources, elles existent. Sachez que les savants, ils sont nombreux et ils ont prouvé et reconnu. Il y a des textes, il y en a beaucoup des textes. Et des textes de savants qui expliquent, qui sont très durs, même envers ceux qui nient l'existence de la possession. Donc on a beaucoup de sources. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimallah, il dit l'entrée dans le djinn, l'entrée du djinn dans le corps des humains est établie selon le consensus des imams. Après, on a aucun imam ne nie cela dans une autre parole à lui. Après, là, vraiment, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas l'important de gagner un débat. C'est pas l'objectif. L'essentiel, c'est que la personne sache que ça existe, que les sources sont présentes, et tout le reste, c'est secondaire. Donc ça, c'était au niveau des sources. Ensuite, au niveau de la capacité des djinns, on a les croyants, on a les djinns qui sont croyants, on a les djinns qui sont mécréants. Donc on a les croyants, Allah Azzawajal, il en a parlé. Dans la sourate al-djinn, par exemple, les premiers versets parlent d'un échange qui prouve qu'il y a certains djinns qui sont croyants. Kul uhiya ilayya anna nafarun min al-djinn dit il m'a été révélé qu'un groupe parmi les djinns, ils ont cru en fait dans le Coran, ils ont entendu une récitation qui guide vers nous avons certes entendu une lecture qui guide vers la droiture, nous y avons cru, c'est-à-dire qu'ils ont entendu une récitation du Coran et ils ont eu foi et ils se sont convertis à l'islam. Pour rappel, on a un autre verset qui dit Wama khalaqtul djinn wal ins illa liya'budun. Nous n'avons créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent, dans le sens du verset. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il a créé les deux types de création pour l'adorer. Donc, ça va dans le sens qu'il y ait des croyants et des mécréants. Ceux qu'on appelle shayatin, souvent, 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 on appelle les shayatin, c'est les mécréants parmi les djinns. C'est le second. Shaytan, dans le sens, ça signifie éloigné de la miséricorde d'Allah. Et donc, shayatin, c'est le pluriel de shaytan. Donc, souvent, il y a les djinns, croyants ou mécréants. Moi, je pars du principe que ceux qui participent à la sorcellerie, ils sont mécréants. Donc, l'idée, je vais l'expliquer plus tard dans d'autres audios, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avis divergents dans le domaine de l'occulte. Donc, il y en a qui disent que non, mais moi, je considère que celui qui participe à la sorcellerie, il devient mécréant, donc ils font des actes de sorcellerie. Donc moi, quand certains patients, on leur dit que t'as un djinn, mais bon, il est croyant, donc il te fait pas trop de mal, etc. Tout ça, pour moi, ça c'est une erreur. Et les djinns qui participent de près ou de loin à la sorcellerie, ils deviennent mécréants et ils essayent d'amadouer en disant qu'ils sont croyants et qu'ils veulent pas de mal, etc. Donc on a le verset qui parle des djinns et de leurs croyances, et on a aussi un hadith où le prophète alayhi salatu salam, il nous informe que les djinns récupèrent des os, les os de viande. En fait, quand on mange de la viande, il reste des os. Et le prophète alayhi salatu salam, il nous demande de pas les souiller, de pas les salir, parce que ça constitue une nourriture par rapport aux djinns. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent des os, de la viande. C'est un hadith et il est authentique. On a un autre hadith qui explique qu'ils peuvent prendre différentes apparences. Ils peuvent prendre l'apparence d'animaux ou de choses plus précises. Et on a un verset où Allah Azzawajal nous explique avec le prophète Sulayman alayhi salam qu'ils ont certaines capacités physiques qui diffèrent des nôtres, qui sont beaucoup plus rapides, qui ont des capacités vraiment extraordinaires par rapport à ce que nous on a. Et qu'Allah Azzawajal, il leur a mis à disposition cette force, cette rapidité-là. On a par exemple le trône qui est déplacé, le trône de Balqis, qui est déplacé dans le temps de cligner de l'œil. Ça, c'est dans le verset. C'est expliqué dans le détail si ça intéresse dans le tafsir, dans l'exégèse. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont un monde parallèle au nôtre, que eux, ils nous voient et nous, on les voit pas. Ça, tout ça, on l'a dans les sources. Et le fait qu'il y ait des croyants et des mécréants, et donc il y a une vie parallèle et que les textes y reconnaissent différentes choses. Partant de ça, le prophète, alayhi salatu salam, il nous informe, et il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que souvent, on a des questions par rapport à ça. On a une passion de certaines personnes qui veulent avoir des détails sur l'anatomie, qui veulent avoir des détails sur pourquoi ça, vraiment. C'est des questions, je pense, qui sont secondaires, qui relèvent de la curiosité et qui font perdre beaucoup de temps aux personnes concernées. C'est beaucoup de détails, c'est beaucoup de détails qui sont recherchés, c'est beaucoup de curiosité. Et ça fait focaliser sur des faux débats, sur des fausses informations, souvent, parce que le premier réflexe, c'est d'aller chercher sur les forums, sur les pages Facebook, et on finit par trouver des informations de choses qui sont supposées et qui ne sont pas réelles, derrière lesquelles il n'y a pas de texte. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont dire les djinns, ils font ça dans la nuit, par exemple. C'est des interprétations excessives de leur part. Par exemple, on a des personnes qui, des raqis, hein, j'entends des rokat, qui disent aux patients ou aux patientes, dans la nuit, tu t'es marié avec un djinn. Ça, c'est quelque chose qui est excessif. Parce qu'on ne peut pas avoir cette information-là. On ne peut pas, sans interprétation, dans le monde de l'invisible, on ne peut pas déduire ça. On ne peut pas avoir une source précise qui va dans ce sens, islamique, j'entends, que ce soit un verset ou un hadith ou autre. Et donc ça part forcément d'une interprétation d'une personne qui s'est réveillée un jour et qui a déduit ça de sa tête et il en fait une information, une certitude. Donc l'essentiel, je pense, c'est de se limiter au texte. Ce que le prophète, alayhi salatu salam, il nous a transmis, ce que les versets nous ont transmis, et il nous manque rien pour la guérison, il nous manque rien pour comprendre le domaine. C'est-à-dire qu'on a l'existence des djinns et les grandes lignes, certaines caractéristiques. On n'a pas besoin de plus que ça. Si on avait besoin de plus que ça, on aurait eu d'autres sources. Allah Azzawajal, il aurait révélé d'autres sources, ou le prophète, alayhi salatu salam, il nous aurait donné d'autres sources. Il y a des hadiths authentiques, il y a des versets, et des hadiths, il y en a beaucoup plus, mais je vois vraiment pas l'utilité. Et je pense que c'est une erreur de méthodologie que de chercher autour de ça, parce qu'on a des patients et des patientes qui passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire des recherches sur les djinns, ils achètent des livres, etc. Bon, que ce soit une curiosité, c'est normal, mais souvent, à tort, ils pensent trouver une guérison dans ces connaissances-là. Ils se disent, il y en a même qui le formulent, hein, qui disent qu'en découvrant les djinns et leurs capacités, c'est mieux connaître l'ennemi pour se soigner. C'est une erreur. À mon sens, c'est une erreur. Une image, imaginez un maçon qui, au lieu de construire son mur, va commencer à philosopher sur le ciment, va commencer à regarder de quoi il est composé, comment, quel dosage, etc., quelle couleur il a. C'est en lien avec le domaine. Mais ce n'est pas du concret qui va lui apporter utilement. Sur le côté pratique, ça va rien lui apporter. Il peut philosopher sur son ciment pendant 5 mois, ça va pas lui construire son mur. Donc c'est en lien avec son domaine, mais concrètement, ça apporte rien. Donc s'il veut que son mur avance, sa maison soit finie, à la maison qu'il a à construire, il doit prendre ce ciment, il doit le mélanger avec de l'eau et construire son mur. S'il passe son temps sur le ciment, ça va pas avancer. Il aura l'impression que c'est en lien avec ce qu'il a à faire, mais dans le concret, il n'en fera rien. Là, c'est exactement la même image dans le domaine. On a beaucoup de gens qui investissent du temps, des recherches, de l'argent avec des livres, des CD, etc. Mais dans le fond, ils sont toujours au même point. Ils sont toujours au même point, ils en connaissent beaucoup, et souvent à tort. Souvent à tort. Je vois beaucoup de patientes, par exemple, qui me récite des leçons par cœur. J'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Mais dans le fond, concrètement, elles sont passées complètement à côté des efforts qu'il fallait faire. Les efforts, ils ne sont pas d'approfondir ces questions-là. Les efforts, c'est la proximité avec Allah Azzawajal, c'est ce qui va pouvoir avoir un impact lourd sur le quotidien au niveau de la guérison. Rapprocher d'Allah et à rapprocher de la guérison. Donc voilà dans ce que je voulais présenter. Barakallahu fikoum pour l'écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Surtout, passez par l'onglet foire aux questions. Envoyez-nous vos questions. Bi'idhnillah, on essaiera de les traiter au plus tôt et de façon la plus complète possible. Barakallahu fikoum. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.